السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، donc aujourd'hui on commence les cours par un cours sur le comportement. Alors une faïda, ici pour vous en début de cours, en une phrase. En une phrase, c'est que un des éléments très 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 importants qui fait qu'on doit en urgence se tourner vers l'apprentissage et la mise en pratique du comportement, écoutez bien, c'est qu'aujourd'hui, l'image des gens de la sunna dans la Jamara francophone, on va pas parler ailleurs, nous, pour le moment, on s'intéresse à la Jamara francophone. Une des raisons pour lesquelles il est fondamental d'apprendre et de pratiquer l'importance du comportement, de se tourner en urgence vers l'apprentissage du comportement et sa pratique, c'est que l'image des gens de la sunna en France, la Jamara, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, les gens de la sunna francophone ont une mauvaise image concernant le comportement. Et cela n'est pas utopique, puisque cela est même connu chez les savants, malheureusement. On parle en général et pas dans l'absolu, bien entendu. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, les prétentions ne sont pas suffisantes. Les prétentions ne sont pas suffisantes. Le mot qu'il emploie est même plus fort. Il dit que ce n'est pas parce qu'on prétend à quelque chose qu'on en fait partie. En gros, pour être plus clair, Cheikh Al-Fawzan dit « Ce n'est pas toute personne qui s'affilie à la salafia qui est salafi. » À ce propos, retenez bien concernant le comportement. Retenez bien. Barakallahu fikum, c'est très important. C'est que les savants disent la voie des salafs salih, la voie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire la salafia, la voie des pieux prédécesseurs. Pour en faire partie, il y a trois choses intégrantes. C'est-à-dire, les savants disent la salafia, il y a trois choses dedans. Il y a la croyance, il y a le manhaj c'est la voie à suivre, le chemin, méthodologie. Et il y a quoi? Il y a quoi? Le comportement en troisième. Beaucoup de gens croient que la voie des salafs, c'est juste se mettre en garde les uns contre les autres, une apparence spécifique, c'est bon, je fais partie des gens de la sunna, c'est moi, je suis là. Non, c'est une erreur et c'est une déviance. C'est pas du tout la darwa du prophète, c'est pas du tout la darwa des compagnons, c'est pas du tout la darwa de nos grands savants du premier au dernier. Vous savez pourquoi une... Bon, on va donner un exemple, hein. Mais il y en a tant des exemples. La méthodologie des salafs. Vous savez, la méthodologie de nos imams. Les compagnons, les imams, les grands imams, les anciens, les nouveaux. Vous savez que la plupart, ils disent que tu dois d'abord apprendre comment te comporter avant d'apprendre le ilm, la science. Subhanallah, quand tu regardes aujourd'hui l'état de la Jamara, c'est tout à l'envers. Alors qu'on est les premiers, on a besoin du médicament. On est intoxiqué complètement. La France, elle nous a... Et nous, on est les premiers qui avons besoin de cette méthodologie. On la crie toute la journée, hein. La sunna, la sunna, la sunna. Je suis salafi, je suis la sunna, etc. On le crie toute la journée. Il y en a même, ils sont partis le marquer sur des t-shirts. Mais sur le terrain, il y a quoi? Il y a quoi sur le terrain? Y a des savants qui disent, si tu n'as pas le comportement, dans le comportement, tu n'es pas salafi. Si tu ne suis pas le manhaj, la voie des salafs, dans le manhaj, tu n'es pas salafi. Il faut pas croire que c'est juste... Ce qu'on pense nous pour être faire partie des gens de la sunna, c'est juste suivre un certain mouvement. Non, pas du tout. Et comme la majorité n'ont pas compris ça, alors l'image, elle est ternie, elle est salie, elle est Wallahul Musta'an, ce que vous savez. Alors c'est pas un plaisir de relater tous ces faits et il faut savoir que c'est pas un plaisir pour quelqu'un qui aime la sunna, qui aime les gens de la sunna. Subhanallah, c'est pas un plaisir. Mais comment les élèves d'un institut vont se corriger si on leur dit pas tout ça? Si on leur dit, si on fait comme la masse, la plupart des gens, continuer comme ça, c'est bien. Faut juste étudier des livres. Une fois que tu as étudié, c'est bon, tu es validé. On t'a vu dans telle mosquée, c'est bon, tu es validé que tu fais partie des gens de la sunna parce que tu connais un tel. Et parce que t'as critiqué, t'es un bon critiqueur. Wallahul Musta'an. Quelle catastrophe. Vous voyez pourquoi? Aujourd'hui, c'est inévitable, c'est incontournable. C'est incontournable. Un prêcheur qui veut prêcher les gens de la sunna, c'est incontournable, tu dois faire des cours de comportement. Mais pas n'importe lesquels, hein. Tu fais pas de la théorie. Allez, on va lire un livre. Non. Faut toucher le cœur des gens. Quand ils sortent de l'institut, il faut qu'ils soient. Ils ont compris. Ils ont compris la valeur du comportement. Subhanallah. Subhanallah. On est où? On est où? C'est la meilleure des religions. On se dit, suivre les salafs, on fait. Subhanallah, on salit comme l'ont dit beaucoup de savants. Au contraire, on est là pour salir. Wallah, il y en a, juste tu les vois. Juste tu les vois, tu vois leur apparence, tu vois comment ils se comportent. Tu parles même sans parler, sans rentrer dans le parler, discuter, tu es déjà dégoûté. Ce qu'ils dégagent, ce qu'ils... Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Wallah, je vous le dis, certains avec leur apparence, comment ils se comportent, ils sont méprisants. On le voit dans... Quand tu rencontres quelqu'un, quand il est méprisant, il est... Wallah, ça te dégoûte. Comment tu veux attirer les gens dans l'islam comme ça? Donc, ce qu'on était en train de dire, c'est que la méthodologie des salafs, de nos grands imams, tous, hein, les grands imams, vous pouvez même dire n'importe quel nom de imam que vous voulez que vous connaissez, l'imam Malik, l'imam Ahmed. Alors on va citer leur exemple, tiens. Comme on vient de citer ces deux savants, comme ça, eh ben on va citer leur exemple par rapport à ça. On va commencer par l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah. Les savants disent que dans ses assises, il y avait 5000 personnes qui assistaient. Il y en avait 500 qui notaient le hadith. Ça veut dire, lui, c'était un spécialiste du hadith, hein. L'imam Ahmed, comme vous savez. Donc, il faisait des cours sur le hadith, etc. Il y en avait sur 5000, hein. 500, ils étaient en train de retranscrire le hadith, prendre le cours de hadith. Et tout le reste, vous imaginez, ça fait 4500 autres. Ils faisaient quoi? Ils analysaient, ils prenaient le comportement de l'imam Ahmed. Il vient, il s'assit, il vient juste pour apprendre à se comporter. Allahu Akbar. S'il vous plaît, faites le tour de la terre. Dites-moi, il y a qui fait ça aujourd'hui? Je vais aller m'asseoir chez un tel, juste pour voir comment il se comporte, je vais apprendre. Et ne rêvons pas, hein. Je vous jure par Allah, je vous jure par Allah, que les grands savants, wallahi, tu vas dans leur cours, niveau comportement, tu vas apprendre. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, en Angleterre, on a Sheikh Al-Suhaimi qui est venu, qui s'est rendu dans une ville en Angleterre. On est parti. Wallah. Déjà, on a profité avec les cours du Sheikh, hein, c'était Usul Sunnah. Donc on a profité avec les cours du cheikh, mais en plus le comportement, Allahu Akbar. J'ai oublié un petit peu, mais il y a eu plein de récits, il s'est passé plein de choses où on a vu le comportement du cheikh, Allahu Akbar. Et pourtant c'est un savant qui est aveugle, hein. C'est un savant qui est aveugle. On a même appris dans le comportement, subhanallah. L'imam Malik. L'imam Malik, c'est dans sa biographie. L'imam Malik, vous trouvez ça dans sa biographie. Lorsqu'il était petit, il voulait partir étudier chez les chouyoukh, chez les ulama. Sa mère, elle lui a mis un turban. Elle lui a mis un beau turban, des beaux habits. Et sa maman qui, comme il est mentionné dans la Sira Tarjama, dans la biographie de l'imam Ahmed, sa maman, elle a joué un grand rôle. Elle a participé pour qu'il soit un talib al-ilm. Elle a participé, un étudiant, puis ensuite un savant. Puis, subhanallah, celui qui a été nommé l'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de l'émigration, Médine, l'imam de Médine. Elle lui a mis des beaux habits et elle lui a dit, prends d'abord le comportement du cheikh avant de prendre sa science. Subhanallah. Et nous, voilà le problème d'énormément de gens aujourd'hui dans la Jamaa, gens de la Sunna francophone et même autres, hein, même autres. C'est qu'on a loupé ce train. On a loupé ce passage. Comme si on avait sauté, on avait mis en accéléré, et quand on a mis play, on avait sauté un fondement très très important et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et il y en a, ils assistent à des cours. Alors vous avez la deuxième catégorie, ça se fait beaucoup. C'est pas un plaisir de le dire, mais avec 20 ans d'expérience, on vous le dit, c'est la vérité. Désolé, mais c'est la vérité. On n'est pas là pour cacher la vérité, nous. Si on veut s'améliorer, il faut savoir. C'est que la deuxième catégorie, alors la première, on a dit que c'est les gens, ils n'étudient pas. Ils ont loupé le train d'apprendre le comportement. Ils ont cru que c'est comme s'ils avaient inventé un nouveau manhaj salafi. Vous avez une deuxième catégorie, ça c'est ceux qui ont étudié. Ça c'est ceux qui ont étudié. Et il y en a même avec les savants. Mais ils ne pratiquent pas. On aurait dit qu'ils étaient là en spectateur dans les cours de comportement, devant les savants. On aurait dit qu'ils étaient là en spectateur. Wallahi par Allah, vous le savez, on raconte pas des histoires. Il y a des gens qui ont été diplômés, qui sont restés 10 ans à Médine. 10 ans. Quand ils sont rentrés de Médine, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, la première chose, hein, s'attaquer à ses frères. Première chose. Ça y est, c'est bon. Tu as eu tes diplômes, les ulama. Ils te disent, c'est bon, tu peux rentrer, va faire darwa en France. La personne, elle arrive, la première chose qu'elle fait, elle s'est attaquée. Elle s'est attaquée. À plus âgé que lui, Sheikh Chalabi, hafidhahullah. Plus âgé, plus savant que lui, plus ancien que lui. Première chose que la personne, elle a fait, diplômé, hein. Dénigrement, attaque, rabaissement. Mais t'as appris quoi pendant 10 ans? T'as un magistère en fitna en fait. T'as pas un magistère en ilm, en fitna. Wallahu al-musta'an. Vous comprenez? On n'est pas dans la polémique, c'est un tel, c'est qui, c'est un tel. Non, c'est pas ça. C'est pour que vous reteniez 10 ans, mais qu'est-ce que t'as fait? T'étais avec les ulama, t'étais. Oui, alors t'as pris le bagage. Mais dans le comportement, t'as pris quoi? Quand on vient vers toi, t'es froid, tu souris pas, tu fais fuir. Qu'est-ce que t'as appris? Vous voyez? On vous a cité deux cas. Le cas de la majeure partie, la plupart. Le premier cas, c'est le cas de la plupart. Eux, ils ont loupé carrément le train. Ils se sont jamais assis à un cours de comportement et ils ont gardé le comportement de la jahiliya. Ils ont juste mis un habit. Ils ont cru que c'était un habit. Wallahu. Et la deuxième catégorie, c'est des gens, ils ont vraiment étudié, ils sont restés avec les ulama, etc. Mais eux, ils ne pratiquent pas. Alors, quand on parle de comportement, il faut que vous sachiez, quand on parle de comportement, faut pas, alors c'est vrai, c'est la base, mais faut pas uniquement focaliser sur le comportement, il est méchant avec moi, il pratique pas le bon comportement avec, un tel ou un tel, ça va plus loin que ça. Parce que, exemple, on va vous donner une autre forme de mauvais comportement. On peut avoir des prêcheurs diplômés qui ont étudié chez les ulama ou autres, ou même des gens de la masse. Ils vont avoir, avec leurs frères, leurs sœurs par exemple, ils vont être gentils, ils vont être. On pourra dire qu'ils ont un bon comportement, on est d'accord. Mais en même temps, ils ont dévié du comportement des salafs, de la salafia. Comment c'est possible? Est-ce que quelqu'un parmi vous a la réponse? Je répète. On prend l'exemple, n'importe un étudiant, un imam ou une personne de la masse, il a un bon comportement avec les autres, les frères, les sœurs, son entourage. On dit qu'il a un bon comportement. Mais il y a quelque chose, il y a un élément où on va dire il est rentré dans le mauvais comportement. C'est un peu subtil, mais peut-être quelqu'un trouvera parmi vous. je vais vous éclairer. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. C'est une chose qui a fait que la Jamara s'est cassée en deux. Elle s'est cassée en deux. C'est parti d'une déviance dans le comportement. Quelle déviance? Personne ne trouve. On va vous donner la réponse, Inch'Allah Ta'ala. C'est le comportement avec les ulama. Les gens qui critiquent, qui dénigrent les savants. Tu peux avoir un bon comportement avec tes frères de la mosquée, etc. Mais tu dénigres et tu manges la chair des savants. Tu as un mauvais comportement. C'est une déviance dans la voie des salaf. Wallahu al-musta'an. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a, ils se sont fait avoir d'un autre côté. Shaitan, il n'a pas réussi à les avoir d'un côté, mais hop, il a trouvé une autre porte, la porte des ulama. Et c'est encore plus grave. Parce que c'est ceux qui sont le plus, parmi ceux qui sont le plus en droit d'être respectés, ce sont les ulama. Et on ne va rien vous apprendre, je pense, à moins que quelqu'un est vraiment nouveau, nouveau, vraiment nouveau, nouveau, peut-être il ne sait pas, là on vous apprendra des choses, mais on ne va rien vous apprendre dans le fait qu'il y a énormément de gens aujourd'hui s'affiliant aux gens de la Sunna et qui dénigrent nos grands savants. Et ça, c'est interdit. À partir du moment où tu as franchi cette porte, ça veut dire que tu as une déviance dans le comportement, tu as une déviance dans le manhaj. Ce n'est pas la voie des salafs de critiquer, de dénigrer les savants. Naham. Alors, au-delà de toute, comment on appelle ça, de toute ambiguïté de dire non, ils ont des erreurs, on mentionne leurs erreurs. C'est vraiment bizarre, hein, cette ambiguïté. Hein. C'est vraiment bizarre. Parce que donc vous, alors, vous êtes plus savant que Cheikh Al-Fawzan. Qui lui a dit, c'est un problème. Il n'y a pas d'erreur. C'est un problème entre des savants. Ils doivent le régler entre eux. Vous êtes plus savant que Cheikh Mohamed Bezmoul. Qui dit, on n'en s'occupe pas de ces choses-là. Si c'était vraiment, il y avait de l'innovation, c'était grave. Ils auraient été les premiers à dire, oui, c'est vrai. Non, non, vous occupez pas de ça, c'est juste des troubles. Ça, c'est des troubles entre des personnes, faut pas se mêler. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Wallahul musta'an. Donc, vous voyez que concernant le comportement, conclusion, hein, conclusion, conclusion, conclusion. Concernant le comportement, on a des énormes, énormes, énormes efforts à faire. Et si on commence pas maintenant. Je pense pas, est-ce que on aimerait s'affilier à la voie des salafs et qu'en réalité c'est juste une affiliation, on n'en fait pas du tout partie. On est en contradiction. Personne n'aimerait ça. Et bien dans ce cas, faut apprendre le comportement. Faut apprendre la vraie voie des salafs. Parce que ce qui se propage aujourd'hui, ce qui tourne aujourd'hui, ce qui se propage dans les réseaux sociaux, avec certains prêcheurs et autres, c'est, je vous le dis tout de suite, ça va peut-être vous choquer, hein, mais c'est pas la vraie voie des salafs. Elle se fait rare maintenant chez les francophones, la voie des salafs. La vraie voie des salafs. Chez les ulama, mashallah. Celui qui est capable de retourner directement aux grands savants, il va apprendre avec eux la vraie voie des salafs, le comportement. Ça fait partie intégrante de leur cours et de leur enseignement, le comportement, hein, les savants. Ça fait partie intégrante. Quand tu vas prendre un cours chez les savants, en même temps, tu vas être en train de t'éduquer. Mais quand tu vas prendre un cours chez les gens de la Jamaa de France ou autre, t'es pas en train de t'éduquer. T'es pas en train de t'éduquer. Parce que tu as des gens qui ne pratiquent pas. Ça va faire un cours, par exemple, de comportement, et 2 heures après, ça sera en train d'essayer de faire tomber son autre frère étudiant ou faire des coups, etc. Donc vous voyez, pour celui qui ne veut pas rester dans les prétentions, pour celui qui ne veut pas rester dans les prétentions, c'est comme un imposteur, hein, celui qui prétend toute la journée, moi je suis boulanger, moi je suis boulanger, moi je suis médecin, moi je suis docteur, moi je suis chirurgien, et en réalité, t'as rien de tout ça. C'est que du copier-coller, du j'ai entendu, on m'a dit. En plus, tu pratiques pas. Dans la pratique, t'es zéro. T'es un imposteur, en fait. Et sachez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ou autres, c'est rempli d'imposteurs. Alors attention, hein. Des fois, le terme imposteur, ça peut être un peu plus général que ce qu'on pense. Il y a les imposteurs innovateurs, ceux qui se sont, ceux qui ils sont, ils ont pris le micro de force et ils ne sont pas aptes, ils n'ont pas le bagage. Mais il y a ceux qui ont le bagage, mais qui sont des sortes d'imposteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, le prêcheur, il se divise en deux catégories. Le prêcheur. Il y a le prêcheur qui appelle à la voix d'Allah et il y a le prêcheur qui appelle à son nifs. Il appelle à lui-même. Il appelle à lui-même. Le prêcheur qui appelle à la voix d'Allah, il est serein. Quand il fait une erreur, il revient sur ses erreurs, il n'est pas orgueilleux, etc. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit, le prêcheur qui appelle à lui-même, à son nifs, il veut toujours avoir raison et il s'énerve quand on lui dit qu'il s'est trompé. C'est un exemple, hein. Donc il faut savoir qu'il y a des prêcheurs qui ils ne sont pas des imposteurs dans le sens où ils appellent à une science qu'ils ont appris, etc. Ils ont un certain bagage. Mais ils ne véhiculent pas un comportement, ils ne pratiquent pas. C'est-à-dire que eux, c'est la darwa pour des intérêts, pour des biens mondains, pour être connus, etc. Il ne faut pas aller vers ces gens-là. Alors sachez qu'on n'est pas là pour faire fuir les gens d'autres gens. On n'est pas là non plus pour dénigrer. On est là pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Parce que lorsqu'on a compris, on saura ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a compris, on sait ce qu'on a à faire. Et si vous n'avez pas compris, vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous allez perdre du temps, vous allez peut-être même vous égarer, vous allez tourner en rond, vous n'apprendrez jamais le comportement, comme c'est le cas de la plupart. T'as déjà fait Kiteb tel livre? Oui, je l'ai étudié, je l'ai déjà fait avec un tel. T'as déjà fait tel livre? Ouais, j'ai fait. Il a fait une dizaine de livres, comportement zéro. J'ai même eu un diplôme, hein, il nous donne un diplôme là-bas. J'ai eu un diplôme comme quoi j'ai assisté à tous les cours et tout, comportement zéro. Wallah al-musta'an. C'est pas ça, faut se réveiller aujourd'hui. Faut se réveiller. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, t'es un ambassadeur. T'es un ambassadeur de quoi? Du mauvais comportement? Du dénigrement? De casser du sucre sur les autres? De la calomnie? T'es un ambassadeur de ça ou t'es un ambassadeur de l'islam? Si t'es un ambassadeur de l'islam, les gens, normalement, quand ils te voient, les koufars, ils doivent fondre. Ils doivent fondre. Ils doivent fondre si tu as un bon comportement, si tu es. Ils doivent fondre parce que le comportement de l'islam, c'est miraculeux. Wallahu al-musta'an. Taïb, donc inshallah ta'ala, après cette petite introduction, mais quand même très importante, hein, ne soyez pas éblouis. Ne soyez pas, ouais, moi j'étais dans tel institut, moi j'ai fait ça, j'ai étudié ça, j'ai la tazkiya de ceci, moi j'ai cela, moi j'ai 70 000 abonnés, moi j'ai 100 000 abonnés, je suis connu. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Vous savez ce qu'a dit un savant? Retenez-la celle-là. Hein. Vous savez un savant ce qu'il a dit? Je crois que c'est Cheikh Al-Uthaymeen ou j'ai oublié quel grand savant a dit ça. Il a dit, si la vérité et le suivi dans la vérité, il se mesurait au nombre de suiveurs, au nombre d'abonnés, alors Shaitan, il serait le premier. Alors le Shaitan, il serait en tête de liste. Les abonnés, le nombre de suiveurs, etc. Tout ça, c'est rien. C'est juste, on veut vous mettre dans les yeux, on veut vous mettre de la poudre aux yeux. Wallah al-musta'an. Dites-vous plutôt, Wallahi, dites-vous plutôt, peut-être une personne, il a 5 abonnés. Regardez son contenu, comment il se comporte, etc. Et vous direz, lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. Il y a des prophètes, dans un hadith, il est mentionné qu'il y a des prophètes. Le jour de la résurrection, vous savez ce que c'est un prophète? Allah Ta'ala, un messager, Allah Ta'ala, il l'a envoyé. Et le jour de la résurrection, il viendra tout seul. Personne ne l'a suivi. Wannabi, walaysa ma'ahu ahadan. Et un prophète qui viendra le jour de la résurrection. Alors dans le hadith, il dit, il y a des prophètes qui vont venir, il y aura avec eux à peu près 10 de personnes. Il y en a, ils viendront, il y aura deux hommes, un homme qui les a suivis. Et à la fin du hadith, wallahu a'lam, parce que c'est un long hadith, donc je ne pense pas que ce soit la fin, mais Mouhim, à la fin de cette parole, de ce sujet dans le hadith, il est dit, et il y a des prophètes qui vont venir, un prophète qui va venir, le jour de la résurrection, il n'y aura personne avec lui. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas fait son message, qu'il n'était pas dans la vérité? Non, ça veut dire que personne ne l'a suivi. Donc quand tu n'as pas beaucoup de monde, ça ne veut pas dire que tu es... Ce qui compte, c'est la sincérité. Ce qui compte, c'est la qualité. Comme on dit nous à l'Institut, on n'a pas misé sur le grand nombre d'étudiants, mais nous, on mise sur la qualité. Des gens qui vont être assidus, des gens qui aiment la science. On préfère 10 personnes comme ça que 200 personnes et il n'y aura pas de faïda. Ou alors il y aura en plus des problèmes gratuits, des machakils, puisqu'on est les premiers, on est les champions des problèmes. Non. Donc il faut la connaître, cette réalité. Et très très important, on termine cette introduction très très par quelque chose de très important, parce que c'est ça qu'on essaye de faire en réalité avec toutes ces introductions, tous ces rappels. On essaye de faire quoi? On essaye de toucher les cœurs, pour que les gens, les étudiants se disent, j'ai compris et je vais changer les choses, Inch'Allah. Alors changer les choses, ça peut être déjà pour toi-même. Parce que lorsqu'on étudie, c'est pour enlever l'ignorance à soi-même et ensuite aux autres. Mais dans un premier temps, quand tu vas comprendre, nous la réaction qu'on souhaite, c'est que la personne, elle se dise, c'est bon, j'ai compris et maintenant je vais faire les causes. Moi, je ne veux pas être comme ces gens-là. A'ouzou billah, moi je veux pas manger de ce pain-là, je veux pas être comme ces gens-là. Moi je veux pas salir l'image des gens de la sunna. Voilà ce que vous devez comprendre en une phrase, hein. Conclusion. Voilà ce que vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on vous raconte tout ça. C'est pas parce qu'on aime bien blablater, les polémiques. On pourrait s'en passer, hein. On pourrait s'en passer. Naham. Mais c'est la réalité. Il faut comprendre cette réalité. Une fois que tu l'as compris, c'est bon, t'as compris. Mets en pratique. Fais tout. Évite ces gens-là comme la peste. Évite ces gens-là comme la peste. Et cherche les vrais gens de la sunna. Accroche-toi à eux et apprends la vraie sunna. La vraie sunna. La vraie sunna que quand la personne, elle te voit, elle dit, ah lui, ça se voit, il a étudié. Ça se voit, il est resté avec les savants. Subhanallah, on ressent quelque chose. Pas avec des acteurs. Pas avec des acteurs qui prennent un livre et qui font la lecture, que ce soit en arabe, en français, en ce que tu veux. Des acteurs. Et quand les gens viennent vers eux ou leur poser des questions, ils sont hautains, ils sont froids, ils te regardent de haut comme ça. Il est content, il se sent supérieur. A'ouzou billah, a'ouzou billah, a'ouzou billah. D'ailleurs, hein, c'est contradictoire avec ce qu'il véhicule, avec ce qu'il véhicule, puisque c'est contradictoire, complètement contradictoire. C'est que en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Puisque les savants disent plus tu montes en science, et plus tu es modeste. Comment toi, plus tu montes en science, et plus tu es orgueilleux, tu es hautain. Subhanallah. C'est, il y a une contradiction fondamentale. Il y a des gens, plus ils montent en science, plus ils s'y croient. C'est le contraire. C'est le contraire. Plus tu montes en science, plus tu crains Allah. Plus tu deviens modeste. Plus tu te dis, comme certains savants l'ont dit, plus j'apprends et plus je vois que je suis ignorant. Allahu Akbar. Et il y a des gens, plus j'apprends et plus c'est moi le meilleur. Allahu Akbar. Tout ça, c'est contradictoire. En arabe, on dit tanaqud. Fiha tanaqud. Subhanallah. On ne veut pas de ça, nous. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on a appris chez Cheikh Mokbel, chez les ulama. C'est pas comme ça qu'on a appris. C'est pas ça, nous, qu'on a appris. On n'a pas la même salafia. Moi, je le dis, je l'ai déjà dit, hein. Je suis pas la même voix que tous ces gens-là. Hein. On n'est pas dans le même. Je sais pas qu'est-ce qu'ils suivent. Je pense que c'est leur passion. Et malheureusement, ils ont embobiné énormément, énormément de jeunes, de gens. Wallah al-musta'an. Énormément sont fait embobiner. Taïb. Donc on va quand même commencer là où on s'était arrêté. Concernant notre ouvrage, Kitabul Ilm, Cheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah. Alors, Naham, intérieur à laquelle l'homme est prédisposé, recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. Taïb. Dans le cours précédent, on avait expliqué, dans le cours précédent, on avait expliqué que le premier comportement est le plus important. Cheikh Al-Uthaymin nous a expliqué, pour ceux qui ont l'ouvrage ou le PDF, c'est page 317 en français. On avait expliqué que le premier comportement est le plus important, c'est le comportement envers Allah, le Créateur. Allah, subhanahu wa ta'ala. Naham. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit, qu'entend-on par le bon caractère qui réside dans le comportement à l'égard du Créateur? Alors, Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, ça veut dire quoi le comportement avec le Créateur, avec Allah, ça consiste en quoi? Il nous dit, le bon caractère dans le comportement à l'égard du Créateur réunit trois vertus suivantes. Ça veut dire que pour avoir un bon comportement avec le Créateur, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses. D'abord, recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. Ça veut dire tout ce dont Allah Ta'ala nous a informé, faut accepter, faut agréer. Ça, c'est bon comportement, c'est le comportement avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu peux pas dire oh ça je prends, ça j'en veux pas, ça oh ça m'intéresse pas, non. Tout ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Créateur dont il nous a informé, il faut en avoir la croyance, accepter, agréer. Jusqu'à la dernière lettre du Coran. Vous savez que, attention, renier ne serait-ce qu'une lettre du Coran, ça peut être de la mécréance. Hein? Deuxième, recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et les mettre en application. Ça, c'est clair, vous avez compris. Toutes les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Il faut avoir la pleine conviction et les exécuter, c'est-à-dire se soumettre. Il faut exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, dans la suite, on va voir le détail. Normalement, on va avoir le détail de tout ça. Troisièmement, recevoir ce qu'il a décrété avec un cœur patient et satisfait. Patient et satisfait. Donc ça, c'est la prédestinée. Allah Ta'ala, ce qu'il a prédestiné, il faut accepter. Accepter avec patience et satisfaction. Donc ces trois choses qu'on vient de mentionner ici, le cheikh, il va nous les détailler. Taïb, notre cheikh, il va nous les détailler, Inch'Allah. Le premier comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. En quoi ça consiste? Il faut qu'il n'y ait chez le musulman le moindre doute ni la moindre hésitation à croire en l'information révélée par Allah. Car toute information donnée par Allah procède de sa science et sa parole est la plus véridique, comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran, Allah le Très-Haut, et qui est plus véridique qu'Allah en son discours. Alors attention, ça c'est très important, faut jamais douter. Vous savez que le shaitan, c'est quoi son procédé, son stratagème? C'est de faire d'abord des waswas. D'abord, c'est les waswas. Les waswas, c'est grave, mais ce n'est pas encore l'étape où tu peux tomber dans la mécréance. Mais après, tu as les doutes. Les doutes, attention, le shaitan, après, si tu laisses les waswas s'emparer de toi, après, c'est les doutes. La deuxième étape, c'est le doute. Et là, les doutes, ça peut être de la mécréance. Attention. Donc, quand il y a des waswas, des choses comme ça, faut tout de suite s'en séparer. Faut pas les écouter. Faut. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Je crois en Allah et son messager. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. C'est ça qu'il faut dire. Quand on a des waswas ou des ambiguïtés, on dit Ana u'minu billahi wa rasuli. Je crois en Allah et son messager. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Voilà, faut pas partir dans le délire des waswas et rentrer. Non, 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 non. Tu fermes la porte, tu dis merci, au revoir, c'est bon. Tu claques la porte au nez des waswas. Non. La croyance aux informations énoncées par Allah implique nécessairement de leur donner son plein assentiment, de les défendre et de s'en servir pour réfuter ses adversaires. De sorte qu'aucun doute venant de sa propre âme ou venant de l'extérieur ne puisse entacher sa croyance en les informations énoncées par Allah ou celles énoncées par son envoyé. En se dotant de ce caractère, le croyant peut repousser toute objection fallacieuse. Shubha. Les shubha, c'est les ambiguïtés. Je répète, en se dotant de ce caractère, c'est-à-dire de prendre toutes les informations d'Allah en tant que véridique, croyance forte, on y croit, on s'accroche, le croyant peut repousser toute ambiguïté émise par les détracteurs contre les informations énoncées par l'envoyé d'Allah, qu'il s'agisse de musulmans qui ont inventé au nom de la religion d'Allah des choses qui n'obéissent pas à ces règles, ou des musulmans qui projettent des subtilités fallacieuses dans les cœurs des musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça signifie que quand tu vas accepter tout ce qui vient d'Allah, ses informations, ses ordres, ses interdits, tout ce qui vient d'Allah, les informations d'Allah, tu vas les accepter pleinement. Aucun wes-wes. Wes-wes, c'est les insufflations sataniques, hein. aucun wes-wes, aucun doute. Tu es raffermi sur la vérité, sur les informations d'Allah. À ce moment-là, tu seras capable de repousser toute attaque d'innovateur ou toute attaque de personne mal intentionnée qui veut te mettre des ambiguïtés en cherchant à détourner la religion. C'est ça qu'il a voulu dire, Cheikh Al-Uthaymeen. Donc vous voyez le rôle impératif, c'est-à-dire comme quoi il faut absolument ne pas passer à côté de ça. Il faut avoir une foi forte, des convictions fortes par rapport aux informations d'Allah, comme ça. Alors pourquoi? Parce que si tu es bancal, bancal ça veut dire mutaraddid. Mutaraddid en arabe c'est si tu es indécis. Ça veut dire que tu as des wes-wes, tu as des doutes, t'es pas raffermi, t'es bancal. T'es bancal. T'es pas moustakim, t'es pas droit. Tu penches d'un côté, de l'autre. N'importe qui. Alors à la première vague, au premier coup de vent, et même des fois, c'est même pas un coup de vent, c'est un tout petit souffle. Ça y est, t'es parti. Ça y est, t'es parti. Et ça, non, il faut pas. Il faut pas. Faut pas être faible. Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais Allah Ta'ala, il aime les deux. Allah Ta'ala, sachant qu'il aime les deux, le croyant fort et le croyant faible. Mais le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah. Donc quand un débute, pourquoi vous venez à l'institut? Vous venez pour apprendre les sciences religieuses, mais également pour augmenter votre foi, pour être plus raffermi, pour faire plus d'œuvres. C'est ça le but. C'est pas uniquement pour gratter du papier, faire de la lecture. Mais c'est pour augmenter sa foi, pour se corriger dans beaucoup de choses, pour se rapprocher d'Allah. C'est pour tout ça. En gros, c'est un chemin vers le paradis. Subhanallah. Donc vous voyez que ce qu'on apprend sont vraiment des choses dès le début qui sont fondamentales, parce que vous avez pu le constater qu'il y a énormément de musulmans, comme ils n'apprennent pas la religion, comme ils ne sont pas dans le rappel, souvent, alors le shaitan, il a réussi à leur mettre des wes-wes, des insufflations sataniques, il leur met des doutes. Ouais, mais s'il y avait ceci, pourquoi il n'y a pas cela? Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. À la fin, ils sont malades, les pauvres. Et ils sont pas raffermis, la foi elle est faible, donc ça te fait abandonner beaucoup d'obligations. Il y a des interdits, tu vas les pratiquer parce que t'as pas la foi, t'es pas raffermi, t'es plein d'ambiguïté, t'es plein. Donc là, on vous a donné un médicament, on vous a donné un médicament. Je répète, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit en se dotant de ce caractère, ça veut dire tout ce qui vient d'Allah. 100% j'y crois, je prends. Le croyant peut repousser toute objection fallacieuse, les ambiguïtés. Les ambiguïtés, c'est une des flèches du shaitan, une de ses armes, une des flèches qui peut être mortelle des fois, pour le cœur, hein. Toute ambiguïté est mise par les détracteurs contre les informations énoncées par l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont venir avec des ambiguïtés. En vérité, ça ne veut pas dire ça. Le prophète, il n'a pas voulu ça. Le prophète, il n'a pas dit ça. C'est pas comme ça. Tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ils vont vous embrouiller. Mais si toi, tu es ferme dans ta religion, c'est toi qui va, excusez-moi du terme, hein, c'est toi qui va le déstabiliser. Normalement, c'est toi. Quelqu'un qui est ferme dans sa religion, quand on vient l'attaquer avec une parole, il casse. Wallahu al-musta'an. Citons à ce titre l'exemple suivant. Il est rapporté authentiquement dans le Sahih al-Bukhari, d'après un récit d'Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand une mouche tombe dans la boisson de l'un de vous, qu'il la plonge à l'intérieur, puis la jette, car une de ses ailes contient du poison et l'autre son remède. Je ne sais pas si vous connaissez ce hadith, mais ce hadith, pourquoi il est mentionné ici? Alors, On va déjà prendre le côté du hadith en lui-même, hein, que le prophète, alayhi salam, il nous a ordonné que lorsque il y a une mouche qui tombe dans la boisson, il faut la plonger entièrement, car il y a une de ses ailes qui contient du poison et une autre qui contient le remède. Donc pourquoi ici on nous mentionne ce hadith? Vous allez voir le lien, le rapport. Ce hadith est une information donnée par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit que ce qu'Allah lui a révélé. Vous savez, hein? La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset, hein, du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit que ce qu'Allah lui a révélé, car il est un être humain, et les êtres humains ne connaissent pas le ghaïb. Le ghaïb, c'est la science de l'invisible, hein, le non manifeste, le mystère, la science de l'invisible. Allah a même révélé, Allah le Très-Haut, ceci à son prophète. Dis-leur, ô Mohammed, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais ce qui est non manifeste, l'invisible. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Alors en fait, ici, là, tout de suite, Cheikh Al-Uthaymeen, il va nous dire c'est quoi le rapport entre ce hadith et notre sujet. Cette information prophétique doit être accueillie avec une noblesse dans le caractère. Vous voyez ça, c'est une information d'Allah, prophétique, donc ça vient d'Allah. Donc on doit être raffermi dans la réception de cette information. L'histoire de la mouche, nous on ne connaît pas le comment, on ne connaît pas le pourquoi, on ne sait pas comment ça se fonctionne. Le prophète, il nous a dit, quand il y a une mouche qui tombe dans ton verre ou dans la boisson, fais-la, trempe-la, trempe-la, parce que elle contient en même temps le poison et en même temps le remède. Tu cherches pas à savoir. Ça, c'est une information d'Allah à travers son prophète. Tu cherches pas à savoir. T'es raffermi. Tu crois à 100%. C'est ça le rapport entre le hadith et le sujet. Cette information prophétique doit être accueillie avec une noblesse dans le caractère. La noblesse du caractère envers cette information consiste à lui donner sa pleine acceptation. Sa pleine acceptation, pas de doute, pas d'ambiguïté, pas d'ouest-ouest, rien. Et a affirmé de manière catégorique que ce qu'il a dit le prophète, alayhi salam, ce qu'a dit le prophète, alayhi salam, dans ce hadith, c'est la vérité. Est la vérité, sans se soucier des objections émises contre lui. Et aussi à être convaincu que ce qui contredit les textes, qui remontent authentiquement à l'envoyé d'Allah, alayhi salam, c'est du faux. Car Allah le Très-Haut a dit: qu'y a-t-il en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Comment pouvez-vous vous en laisser détourner? Allahu Akbar. Ça, c'est fort. Quand tu as la vérité, l'information de la vérité face à toi, il n'y a rien au-delà de la vérité à part le faux. Donc, comment tu peux te laisser détourner alors que tu as la vérité en face de toi? Naham. On va terminer le premier point. On laissera le deuxième point pour le cours prochain. Ensuite, alors je vérifie quelque chose, hein. Excusez-moi. En matière d'eschatologie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé que le jour de la résurrection, le soleil s'approchera. Donc il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, Cheikh Al-Uthaymeen, il va nous donner un autre exemple comme quoi, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'Allah Ta'ala, il descend, il fait descendre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé des informations d'Allah, et de son prophète, Aïssatou Assalem. On doit y croire 100%. Et là, on nous donne un deuxième exemple. On nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé que le jour de la résurrection, le soleil s'approchera des gens de la distance d'un mille. Le mille en question est soit la mesure connue, soit la taille du bâtonnet qui sert à appliquer le kohl sur les yeux. Cette distance entre le soleil et la tête des gens est très courte et malgré cela, ils ne seront pas brûlés par sa chaleur. Le soleil, le jour de la résurrection, il va s'approcher, 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 et malgré ça, il y a des gens qui ne seront pas brûlés. Alors qu'aujourd'hui, si le soleil s'approchait, ne serait-ce que de peu de la terre, il la réduirait en une boule de feu. Certains pourraient se demander comment le soleil pourrait-il s'accrocher le jour de la résurrection à une telle distance, s'approcher, pardon, le jour de la résurrection à une telle distance de la tête des gens, et malgré cela, ils resteront en vie. En quoi consiste alors le bon caractère vis-à-vis de ce hadith? Cela consiste à donner sa pleine acceptation et son plein assentiment à ce hadith, sans ressentir la moindre contrariété, ni la moindre gêne, ni la moindre hésitation envers lui. Il faut que nous sachions que ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet est la vérité, et nous ne pouvons pas faire des analogies entre ce qui se passe dans l'au-delà et ce qui se passe dans ce monde, en raison de la grande différence entre ces deux mondes. Ceci étant, le croyant doit accepter ce genre d'informations avec un cœur ouvert, serein et compréhensif. Ça, c'est la première chose concernant le comportement qu'on doit avoir avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib, c'est la première chose importante. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, hein, comme à l'habitude, il nous a expliqué, subhanallah, magistralement, il nous a expliqué cette première chose qui fait partie du comportement le plus important, celui avec Allah, subhanahu wa ta'ala, recevoir ces informations. Naham. Dans le prochain cours de comportement, inshallah ta'ala, on expliquera, inshallah, par la volonté d'Allah, la deuxième chose importante concernant le comportement avec Allah ta'ala. Recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et à les mettre en application. On a donc une question d'un étudiant qui nous dit: Alors, Assalamu alaikum à Oustaz, wa alaikum assalam, à rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de prendre des vidéos d'une chose dotée d'âme, a-t-il le même jugement comme le fait de prendre une photo d'une chose dotée d'âme, barakallahu fikum, pardon, je suis hors sujet. Oh, il n'y a pas de souci, hein, pas de souci, mon frère. Il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent oui, c'est considéré comme de la photo. Et il y a d'autres savants. Alors, il y a des savants qui disent c'est considéré comme de la photo. Et il y a d'autres savants qui... Alors, c'est considéré comme de la photo parce que tu reproduis la création d'Allah. Wallahu a'lam. Et il y a d'autres savants, et il me semble que c'est Cheikh Al-Uthaymeen, Naham, c'est Cheikh Al-Uthaymeen qui dit, en fait, la vidéo et la photo, il y a une différence. Il dit que la vidéo, c'est pas considéré comme la photo, Cheikh Al-Uthaymeen, parce que la photo, c'est une capture d'écran. La vidéo, ce n'est pas une capture d'écran. Il explique bien, il explique le sujet, c'est un peu technique quand il explique, mais il explique que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La vidéo et la photo, ce n'est pas pareil. Donc nous, Allahu A'lam, on a pris cet avis de Cheikh Al-Uthaymeen, Allahu A'lam, on a pris cet avis que la vidéo, ce n'est pas comme la photo, ça bouge, la vidéo, ça bouge, etc. C'est pas, on représente pas la création. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Comme vous le voyez, hein, il y a des savants qui autorisent la vidéo, etc. Nous, si vous préférez, si on n'a pas ici à l'institut, hein, dans la Zoom, si on n'a pas mis la vidéo, on l'a fait une fois, on le fait de temps en temps pour que les élèves nouveaux, ils puissent au moins voir une fois l'enseignant. C'est pas quelqu'un leur dit, tu l'as déjà vu ton enseignant, tu sais c'est qui? Peut-être il a un chapeau de clown et il est en pyjama. Starfellow là, hein? Toi, tu sais même pas, peut-être derrière, c'est quelqu'un qui a un chapeau de clown et il est en pyjama. Pyjama, Starfellow là, c'est pas façon de parler, il n'a pas la sunna, quoi. C'est pas haram le pyjama, mais vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que au tout début, dans les vidéos, et même de temps en temps, quand il y a des nouveaux, on allume la vidéo pour qu'ils puissent voir leur enseignant. Mais sinon, c'est pas qu'on est contre la vidéo, mais c'est qu'on cherche juste à se préserver. On cherche à se préserver. Et malheureusement, il y a des gens mal intentionnés. Ils seraient contents d'avoir une vidéo. Après, de trafiquer la vidéo, de dire regardez Abdelkarim, Abou Abdelrahman. C'est pas parce que nous, on n'est pas pour la vidéo, hein, mais c'est pour se préserver de beaucoup de choses. Voilà. Barakallahu fikoum, en tout cas. Si vous avez des questions, profitez-en. Wayek, Cheikh Abou Youssouf. Wayek. En tout cas, il y a des élèves dans notre classe dans votre classe qui ont posé des questions. Vous inquiétez pas. Dès qu'on a un moment, on va traiter vos questions. Hein. Ne vous inquiétez pas. À la kulli hal, quand il y a une question qui vient à nous, même si des fois on met un peu de temps à y répondre, elle est là toujours la question. J'ai fait un groupe où je mets toutes les questions de l'institut et dès que j'ai un moment, je traite les questions. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, barakallahu fikoum. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى on se donne rendez-vous demain pour votre classe c'est demain matin pour la suite des cours بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته